Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire de Passage. Je vous propose aujourd'hui de quitter la France pour un autre pays membre de l'Union européenne, l'Estonie. Je devine la première question qui vous vient immédiatement à l'esprit. Mais où l'Estonie se situe donc-t-elle? Rassurez-vous, je commencerai par préciser ce point. L'Estonie se situe au nord de l'Europe. Elle est entourée par la Finlande au nord, la Suède à l'ouest, la Lettonie au sud, ainsi que la Russie à l'est. Elle est séparée de la Finlande et de la Suède par la mer Baltique et partage ses frontières terrestres avec la Lettonie et la Russie. Dans le contexte actuel de guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Estonie est l'un des plus fervents soutiens des Ukrainiens. Et pour cause. L'Estonie a été occupée par l'Empire russe du XVIIIe au XXe siècle, puis par l'URSS de 1944 à 1991. À présent, elle s'inquiète d'une éventuelle nouvelle invasion par la Russie. Si l'Estonie est si farouchement attachée à son indépendance, c'est qu'elle n'a existé, en tant qu'État, qu'une cinquantaine d'années seulement au cours de son histoire multiséculaire. Avant la Russie, l'Estonie était dominée par les Allemands depuis le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle constitue une période charnière pour les Estoniens. Ces derniers, originellement peuple de chasseurs-cueilleurs, furent alors envahis, colonisés, puis christianisés par des chevaliers prêtres allemands qui les réduisirent subitement au servage. C'est aussi au XIIIe siècle que s'inscrit l'intrigue d'un roman contemporain, publié pour la première fois en Estonie en 2007. Il s'agit de « L'homme qui savait la langue des serpents ». Il a été écrit par Andrus Kivirek, un écrivain des plus populaires à l'heure actuelle en Estonie. Ce roman a pour héros un jeune garçon, prénommé Limet. Limet vit dans la forêt, avec sa mère, sa sœur et son oncle maternel. Ils font partie d'une petite communauté de chasseurs-cueilleurs qui consomment de la viande d'élan ainsi que du lait de louve. Malheureusement, leur petite communauté perd chaque jour certains de ses membres, qui partent s'installer dans un village allemand situé à la lisière de la forêt. Pourquoi ce choix ? L'attrait de la nouveauté, bien évidemment, et de la modernité, que symbolise à leurs yeux le mode de vie paysan. En effet, ce village leur propose des chaumières plus confortables que leurs huttes forestières. Ils utilisent des outils qui leur semblent très sophistiqués, comme la faucille ou la meule. Après leur dure journée de travail dans les champs de céréales, ils se régalent de pain, de vin et de soupe d'orge. Limet lui-même se montre très curieux à l'égard du village. Depuis la forêt, il observe régulièrement ses habitants, en compagnie de son meilleur ami Partel. Une jeune villageoise, Magdalena, retient tout particulièrement son attention. Il rêve de pouvoir la rejoindre. Si vous pensez avoir affaire à un simple roman historique, détrompez-vous, car le fantastique n'est pas loin. Même si la forêt lui offre un cadre de vie plus que rustique, Limet grandit dans un univers peuplé de créatures extraordinaires. Dans la forêt, les êtres humains et les animaux cohabitent et communiquent. Dans l'entourage de Limet, le mari de sa sœur n'est pas un homme, mais un ours. Outre Partel et Ii, deux enfants humains, Limet compte parmi ses amis Ints, une jeune serpente, issue d'une noble lignée. Pour communiquer avec cette dernière et d'autres animaux de la forêt, Limet utilise la langue des serpents. Dès son plus jeune âge, Limet a commencé son apprentissage de la langue des serpents auprès de son oncle maternel. Cette langue est très difficile à apprendre. Aussi, peu d'habitants de la forêt la pratiquent encore. Elle peut pourtant rendre de bien précieux services. Grâce à la langue des serpents, les êtres humains peuvent notamment engager une conversation avec un animal ou bien lui donner des ordres. Il l'utilise par exemple pour chasser les élans. Une formule spécifique peut neutraliser l'animal et ainsi faciliter sa mise à mort. Outre son aspect pratique, Limet découvre par le biais de son apprentissage l'histoire de ses ancêtres. Son oncle maternel lui relate les faits d'armes de ses grands-pères, fiers soldats ayant vaillamment lutté contre les invasions des chevaliers prêtres allemands. Limet apprend aussi que le peuple de la forêt était autrefois invincible. En effet, à l'approche d'une armée ennemie, le peuple de la forêt invoquait d'une seule voix une créature terrifiante, la salamandre. La salamandre voulait alors à leur secours et décimer les armées qui osaient venir les attaquer. Pourquoi la salamandre n'est-elle pas intervenue contre les chevaliers allemands ? Eh bien, la salamandre ne répond qu'aux appels lancés, d'une part, par tout le peuple de la forêt, et d'autre part, en langue des serpents. Dans la mesure où la langue des serpents n'était déjà plus suffisamment pratiquée, il fut impossible au peuple de la forêt d'appeler la salamandre et, par conséquent, de résister à la supériorité technique de leurs envahisseurs. La salamandre n'a pas pour autant disparu. Cette créature est immortelle et s'endort profondément lorsque personne ne l'appelle. Si comme Limette, vous souhaitez découvrir la cachette de la salamandre, je vous donne rendez-vous à l'abbaye de Bordeaux, où l'homme qui savait la langue des serpents peut être emprunté. En attendant de vous le procurer, pourquoi je vous conseille ce roman ? Tout d'abord parce qu'il se lit très facilement. Connaître à minima l'histoire et le folklore estonien peut vous apporter des clés de compréhension complémentaires. Toutefois, cette connaissance n'est en aucun cas nécessaire pour appréhender et savourer l'intrigue. Ensuite, parce que ce livre est très ironique et humoristique. Loin de dresser un tableau idéalisé du mode de vie des Estoniens d'avant le XIIIe siècle, il interroge le maintien des traditions et leur sens dans le monde moderne. La modernité n'échappe pas non plus à l'examen critique de Limette. Pour ma part, je me suis délectée de la description des pratiques religieuses, païennes ou chrétiennes, où se manifestait pleinement le sens de l'humour ravageur de l'auteur. Pour autant, ces descriptions de pratiques religieuses interrogent concrètement le rapport des villageois et du peuple de la forêt à leurs traditions et à la modernité. Plus généralement, nous pouvons considérer la langue des serpents comme une métaphore de la langue estonienne. En raison des siècles de domination allemande puis russe, l'identité estonienne s'est essentiellement fondée sur la langue estonienne. Au cours du XIXe siècle, le regain d'intérêt des intellectuels estoniens pour la langue estonienne a permis l'émergence de mouvements nationalistes qui ont encouragé la lutte pour l'indépendance du pays. Les Estoniens sont très attachés à leur langue, et ce roman apporte un témoignage en ce sens. Pour finir, je mentionnerai un petit détail qui peut retenir l'attention de certains lecteurs. La couverture du livre est absolument superbe et ne donne qu'une envie, s'y plonger dedans. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique littéraire.